Alors, Dominique.
Alors, on est dans le suspense. Dans le suspense. Je ne voudrais pas donner d'indication, mais j'ai regardé les résultats des initiatives en Hongrie, déjà, c'était le week-end dernier, je crois, voilà. Viktor Orban, c'est le diable, hein, vu d'ici pour la...
Ah bon
pour, ah bah oui, pour la pensée correcte, c'est le diable, Viktor Orban. Bah dites donc, il a fait un score absolument étonnant. Alors, je veux bien qu'on nous dise que la presse est manipulée, que les informations, tout ça, qu'il y a de fortes pressions et que la démocratie médiatique n'est pas totalement respectée en Hongrie, peut-être, ça me demanderait d'être vérifié. Hein, bon, mais en tout cas, il fait près de 55% des voix, quand même. Hein, et les six partis d'opposition font 34%. Pour son des voix, voilà. C'est le quatrième mandat de 4 ans pour Monsieur Orban. Voilà. Donc c'est quand même le populisme. Alors, on peut me raconter n'importe quoi, mais ça veut bien dire que ça correspond quand même à quelque chose. Alors, je ne peux pas parler de la situation de la France, hein, parce que c'est trop près des élections, mais il faudrait quand même s'intéresser à tout ça. C'est-à-dire que ces partis populistes, ces personnalités populistes, quand elles parlent, elles disent des choses. Et que ces choses-là sont entendues quand même par des gens qui sont quand même plus ou moins majoritaires, que ça plaise ou non. Hein, à l'intelligentsia.
Mais oui, mais parce qu'on a toujours l'impression que nos politiciens, ils vivent sur une autre planète.
Oui, ben beaucoup, oui, bah oui.
Ils savent pas ce que c'est.
Oui, oui, oui. Ah bah oui.
Notre vie de tous les jours. Mm. Ils savent pas. Ils s'imaginent pas.
Oui, puis alors qu'en plus, non seulement eux ne s'imaginent pas parce qu'ils sont un peu déconnectés, c'est cette upper class, la classe supérieure formée, ENA et tout ces choses-là, et en plus, ils font fonctionner la machine en prenant des conseils aux gens qui sont encore plus déconnectés qu'eux, parce que c'est des firmes privées qui ne sont jamais soumises à l'élection, qui ne sont jamais au contact avec le pays réel, qui ne sont jamais au contact avec les vrais gens, finalement, ouais. Qui sont des gens de pur, alors ils sont intellectuellement brillants, les intellectuellement brillants dans un système donné, dans un système donné.
Bah, j'espère parce que pour remplacer la poste, retrouver la poste, voilà, ils sont très très intelligents.
Bah oui, et puis on l'a vu aussi à maintes reprises. Et après, on s'étonne quand on fait fonctionner les choses comme ça qu'on ait l'archipélisation dont parle Fourquet, c'est très très intéressant ce qu'il dit, qu'on ait des effervescences gilets jaunes, qu'on ait un nombre considérable de gens qui ne veulent plus se déplacer pour aller voter parce qu'ils ne se sentent plus concernés par les décisions qui sont prises par les dirigeants de leur pays. Après on s'étonne de tout ça, mais pas s'étonner.
Parce qu'il y en a plein qui disent qu'est-ce que ça va changer, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie de tous les jours. C'est malheureux, hein.
On se moquait beaucoup, sous la 3e et la 4e République, que beaucoup d'élus, beaucoup d'hommes politiques, puisque c'était surtout des hommes, évidemment, à l'époque, étaient souvent des avocats. Il y avait beaucoup d'avocats qui faisaient de la politique.
Ou alors non, c'est parce qu'ils avaient fait de la politique, après ils sont devenus avocats. De nos jours, maintenant c'est ça, oui, mais si c'est ça.
Oui.
Parce qu'à partir d'un certain nombre d'années en étant député, ils peuvent être avocats.
Oui, c'est très curieux. Enfin bon, c'est comme ça, voilà. Bon. Mais enfin bon, c'est... Oui, mais enfin, je reviens à mon petit cheval, s'il vous plaît.
Donc avant, c'était les avocats qui devenaient politiciens.
Voilà, il y avait beaucoup d'avocats dans la sphère politique. Mais un avocat, c'est quelqu'un qui est au contact, qui dans son cabinet d'avocat voit la misère des gens. Il ne voit pas que les choses. Il n'est pas coupé.
Ah, moi, j'aurais dit que parce que c'était un bel orateur.
Aussi, parce que l'oralité avait une importance considérable dans la vie politique, d'ailleurs. D'ailleurs, les discours à l'Assemblée nationale, quand on compare les discours de la 3e République avec ceux d'aujourd'hui, je vais vous dire, c'est le jour et la nuit, quoi. L'aisance, enfin, la langue employée, la rhétorique, la dialectique, la qualité de démonstration, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais bon, et donc l'oralité avait une grande importance, mais aussi quand ils arrivent à la Chambre des députés ou dans telle institution politique, fort de ce qu'ils ont vécu dans leur activité d'avocat. L'avocat, c'est défendre, c'est soutenir, c'est aider. Ça veut dire qu'ils étaient pénétrés de la réalité, des difficultés, des gens, des gens. Et pas, et un avocat, c'est pas quelqu'un qui vit avec des courbes, assis sur, le cul sur sa chaise dans son bureau, puis qui regarde des courbes de tendance, d'évolution, tout ce que ça. C'est quelqu'un qui a quelqu'un en face de lui dans son cabinet, puis qu'il faut le sortir de la merdouille, qu'il faut l'aider, qu'il faut le soutenir et tout ça. Donc ils arrivaient avec cette humanité-là, ce bagage d'humanité-là dans la politique. Ben aujourd'hui, l'élite, elle n'est pas formée au contact humain. Ouais. Comme ça, elle n'est pas formée.
On se fait une pause, Dominique ?
Oui.